EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Hello, hello tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et pour certains d'entre vous, eh bien ça continue, les repas s'enchaînent et vous ne savez pas quand ça va finalement s'arrêter. Vous inquiétez pas, ça va s'arrêter une journée puis ça va reprendre après avec le nouvel an. Mais bon courage à vous. Mais nous sommes toujours là et très heureuse d'être avec vous et d'être aussi avec notre invitée Josiane. Bonjour Josiane. Et
bonjour.
Très heureuse que tu sois là pour cette semaine qui est passée très vite avec toi. Et on va parler de famille aujourd'hui. Je t'ai dit mercredi, non, n'en dis pas trop, parce qu'on veut parler de la culture familiale, comment instaurer une culture familiale et comment aussi laisser un héritage, parce que on ne veut pas juste, on veut pas vivre cette vie en se disant tout ce que j'aurais fait n'aura servi à rien finalement. Mais comment on peut le faire? Et on a besoin d'être aussi intentionnel, d'en avoir conscience. Donc tu vas pouvoir nous partager ce que toi et Jean-Luc aussi vous avez appris au cours de toutes ces années avec vos quatre enfants. Et vu que c'est Noël aussi, vous c'est quoi? Vous avez une petite tradition de Noël, des petites habitudes à Noël?
Oui, on a plein de traditions et on a plein de rituels et on aime ça. Et c'est comme ça qu'on forge une culture. C'est en faisant des rituels et des traditions. Donc, on se rencontre tous, tout le monde voyage parce que on est dans différents pays. Donc, on laisse nos enfants fêter avec leur belle famille le 24, etc. Le 23 et tous les jours. Et le 25, on se rencontre. Donc, j'ai deux enfants qui doivent voyager, une qui vient d'Allemagne. Mon fils est marié à quelqu'un qui est français, donc ils viennent aussi de la France. Mm-hmm. Ils viennent en Suisse. Généralement, je cuisine et j'aime cuisiner. Mm. J'ai toujours cuisiné, j'ai construit ma famille autour de la table. Mais vraiment, la nourriture, là, on a un super fromage. Si vous pouviez sentir l'odeur, déjà. Eh bien, j'ai exactement, les odeurs ont créé et j'aime partager des repas. On aime partager. Et généralement, je mets ce qu'on dit chez nous, on met les petits plats dans les grands pour Noël. Mais je suis une personne qui fonctionne avec des budgets. Donc, je me fais pas c'est vrai. Je vais dans mon shopping. Et je regarde ce qui est en action et je construis en fonction de ce qui est en offre.
Donc c'est pas tous les ans le même.
Non, c'est pas tous les ans la même chose. Et puis après, aujourd'hui, on est une famille avec des beaux enfants.
Oui, c'est ça, et ça a grandi.
Et les beaux enfants, ils font toujours la loi dans la famille. Je sais pas si vous avez remarqué. En anglais, on dit les in-laws. Ils font la loi. Donc, je cuisine aujourd'hui, et mes enfants me le font remarquer. Je cuisine en fonction des goûts de mes beaux enfants.
Ah, voilà.
Je vous donne un truc là. Vous voulez intégrer, vous voulez garder vos enfants, avoir vos petits enfants à table. Nourrissez vos beaux enfants. Ils vont revenir. Excellent. On revient toujours à la table qui nous nourrit. Mm-hmm. On revient toujours.
Ça, c'est une bonne citation.
À la table.
Ah oui. Exactement. Qui nous nourrit bien. Écoute, toi, petite tradition, Nadège. En posant la question, je peux dire.
Oui, la tradition, pour moi, c'est, on passe du temps ensemble. Ouais. C'est vrai que j'ai pas encore des enfants, j'ai pas encore de beaux enfants. l'aîné a 16 ans, mais c'est vraiment on a toujours fait qu'on nous soit ensemble ce jour-là. Pas d'invitation à gauche, à droite. On reste ensemble, on fait quelque chose à la maison. On mange, on parle, on papote, on peut regarder un film de Noël. Mais on fait tout ensemble le 25. On fait tout ensemble. Nous avions commencé avec les restaurants, mais il se faisait que tout le monde sortait ce jour-là. Alors à Kinshasa, les enfants disent non, ils voulaient pas parce que dès que vous êtes entré dans un restaurant, les gens venaient prendre des photos. Oh, Pasteur Atems! Les enfants disent ok.
On reste à la
plus
maison,
de restaurants. Ouais. Alors on reste maintenant à la maison avec un bon repas. On mange, on crie, on saute.
Toi Aurélie, tous les ans c'est différent aussi,
oui.
Là où le vent te mène.
Exactement.
Donc chaque Noël est différent, mais t'aimes bien avoir un bon repas quand même à Noël.
Ben, c'est sûr que la période des fêtes, pour moi, c'est une période festive. Et qui dit fête, dit bon, bien manger aussi. Donc,
oui. Mais... Oui, bon, je vous propose le fromage. Là, pour le coup, ça va être pas hyper glamour de le manger. On s'excuse, on se garde une petite gêne. C'est pour ça qu'à la fois, on mange pas ce qu'il y a sur la table, parce que c'est mais pas c'est facile à manger. Oui, c'est de la vraie nourriture. Et avant qu'on aille plus loin, je vais vous partager le témoignage de Nelly, et qui nous dit que lors de la conférence Guérison et Réveil en 2024, à la session avec Monsieur Jean-Luc Traxel, eh bien, il a prié pour ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux. Il a demandé de poser ses mains sur les yeux, puis en acte de foi d'aller se laver le visage. Ce que j'ai fait, et depuis ce jour, je n'ai plus porté de lunettes. Oh. Cela faisait 30 ans que je portais des lunettes. Depuis, j'ai retrouvé une vision parfaite, impeccable. Je suis capable de lire des textes extrêmement petits de loin. On sent qu'elle a testé sa vue. Et surtout, je ne suis plus hypersensible à la luminosité. Wow. Eh bien, merci Seigneur pour la guérison de Nelly. Et merci à tous nos partenaires, toute la famille des partenaires. On vous bénit pour votre générosité. On vous bénit de pouvoir semer continuellement dans l'œuvre de MCI, dans la mission de MCI. C'est un privilège pour nous de pouvoir œuvrer avec vous et de pouvoir avoir ce genre de témoignages aussi ensemble. Et si vous voulez rejoindre la grande famille des partenaires peut-être avant la fin de l'année, eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous aurez toutes les informations. Pour certains d'entre vous, c'était peut-être un désir qui était dans votre cœur depuis le début de l'année et on arrive à la fin de l'année. Alors si vous vous dites ben moi je veux pas terminer cette année sans concrétiser ce vœu, cet engagement que j'avais pris dans mon cœur peut-être lors d'une conférence ou lors d'un live ou lors d'une émission que vous avez pu suivre, eh bien je vous encourage à pouvoir aller sur ce lien, sur ce site et pouvoir suivre la procédure qui vous est montrée, indiquée. Alors on termine cette semaine avec Josiane qui est avec nous et comme on a dit, on va parler de culture familiale parce que vous êtes, tu nous l'as expliqué et puis je pense qu'on l'a bien compris, vous êtes extrêmement occupée. Jean-Luc voyage énormément. Alors, au cours des dernières années, au cours de toutes ces années, toi, tu as un peu moins voyagé, mais tu étais comme extrêmement occupée parce que entrepreneur avec, tu as eu combien d'entreprises, tu as dit? Quatre, plus donc les quatre enfants, etc. Tu as parlé du fait que vous aviez votre soirée une fois par semaine qui a été un vrai souffle pour vous. Mais dans tout ça, c'est que la vie va aussi très vite avec les enfants. Donc comment déjà, est-ce qu'on, bah tu l'as dit, tu as donné une petite réponse, mais comment est-ce qu'on bâtit une culture familiale? Et à quoi ressemble la vôtre?
Alors, j'ai envie de commencer par à quoi, quelle est l'émotion que Dieu il a quand il regarde nos familles. Parce que souvent on demande à Dieu de bénir, de nous bénir, etc. Est-ce que nous le bénissons? Est-ce que nous réalisons que nos vies de famille lui créent des émotions? Et quand il regarde ma famille, au final, est-ce qu'il a une émotion de joie? Est-ce qu'il a une émotion de waouh, j'ai mes représentants sur terre? Ou est-ce qu'il a une émotion de dire, quelle est l'émotion que Dieu est là quand il regarde nos familles? Et si on se pose la question de quel est le miroir que l'on est pour le ciel? Parce qu'au fait, les rayons, enfin, Dieu bénit la famille, c'est depuis le jour 1, la création de la terre. Du reste, au départ, il avait mis la femme et l'homme que dans un être humain. Et il s'est rendu compte, il y a un truc qui joue pas, il va s'ennuyer tout seul. Il faut que je fasse qu'il y ait une récréation entre eux. Il faut qu'il y ait une relation entre eux. Et il a extrait Ève. OK? Ça, c'est déjà la base. Dieu, dès le départ, il dit, la seule chose qu'il dit l'homme ne peut pas rester seul. Il peut pas rester seul. Et donc, il extrait le côté féminin qui était dans le côté d'Adam et il crée Ève. Et il dit, et ils se multiplieront, ils auront une relation. La famille est dans le cœur de Dieu. Depuis la création, jour 1. Donc, il a un but, il a des émotions, il nous a créés dans un but. Et nous, nous sommes que le miroir de Dieu. Là, tout autour, j'aime beaucoup cette table, parce qu'au fait, on est représentants de plein d'ethnies différentes, on a des visages différents, mais on représente tous une partie de Dieu. Donc, nous, sur Terre, la famille représente Dieu. Et à quoi elle ressemble? Et quel type d'émotion Dieu a quand il observe notre famille? Et si on se pose ces questions, alors tout de suite, on se rend compte qu'en fait, notre culture familiale, c'est un terrain dans lequel certaines semences, on a le privilège de recevoir des enfants, des autres êtres humains qui ont leur appel, qui sont uniques, mais qui nous sont prêtés. Ils nous sont prêtés. Dieu nous les redemandera. Et il demandera qu'est-ce qu'on a fait avec ces personnes. Et sur le parcours qu'on a le privilège de les accompagner, est-ce qu'on a créé ce terrain où ces êtres humains peuvent eux-mêmes croître, rentrer dans leurs appels, poursuivre l'appel intergénérationnel que Dieu a pour nos familles. Et si vous regardez dans la Bible, là on est Noël, alors je vais prendre juste ce passage. Si vous prenez dans Matthieu, vous avez toute la généalogie de Jésus. Bon, nous on se dit, bon, on passe les passages, puis on vient tout de suite à l'histoire. Hein. Peut-être vous avez lu ça même hier en famille, etc. Pourquoi Dieu nous parle de la généalogie? Parce que Dieu est intergénérationnel. Et il a une vision quand il nous a créés. Il a mis en nous les semences des générations, de générations, de générations, de générations. Et on n'est pas tout seul arrivé sur Terre. Si tu es là aujourd'hui avec ta famille et toi-même, c'est que tu as des générations qui ont compté pour Dieu avant et qu'il aligne les choses et il te demande juste, on n'est que d'un passage sur Terre. Donc, et on nous confie d'autres êtres humains, on a un terroir qui s'appelle la famille. Et ces êtres humains nous sont confiés pour qu'eux rentrent dans leur appel. Donc, à quoi ça ressemble cette culture? Eh bien, essayons, attention, la mienne n'a pas tout le temps été ça, et encore vraiment, même Dieu à moi. Et essayons d'être des familles du royaume, qui mettons le royaume dans la base, dans la bouche des enfants dès le départ. Je le disais hier, ils n'ont pas un petit Saint-Esprit. Ils reçoivent le package, le full Saint-Esprit. Il est là même quand ils sont petits. Donc, pour moi, la famille doit être la réflexion du royaume de Dieu. C'est là qu'on cultive. Il n'y a rien de plus qui va se faire progresser que des enfants. Si tu connais pas ta limite, le don de patience que tu as, si tu ne sais pas quand il te manquera des heures de sommeil, à quel point le don de la joie peut être tiré, les enfants sont l'élément, le facteur qui te fait le plus croître. Pas seulement dans leurs petites enfances. Alors attends la période de l'adolescence, c'est grandiose, c'est magnifique. Tu te rends compte que tu as semé sans vouloir récolter. Faut pas chercher à récolter à ce moment-là. Et puis après, tu as la récompense des petits-enfants et tu vois ta continuité de vivre sur Terre. Donc Dieu est intergénérationnel, Dieu est générationnel et il te confie les générations futures. Donc sur quel type de terroir et qu'est-ce que tu autorises qui rentre dans ta famille?
Tu as combien de petits-enfants?
Alors, 6. Aujourd'hui, 6.
Oui. Quelle bénédiction.
Vous voir comme ça, on dirait pas que vous êtes des grands-parents, mais.
Voilà, oui. Ben, alors, on a commencé jeune, nos enfants aussi. Et mariez-vous jeune et faites des enfants. Je le dis. C'est plus facile de se marier jeune. On est plus souple. On se combine mieux. On s'articule mieux. On grandit ensemble. Et c'est pas un problème de se marier quand il n'y a pas d'argent, je le dis. Parce que c'est devenu, sociétalement parlant, on se marie que quand on a tout. C'est faux. Si tu crois ça, tu enlèves Dieu du facteur qui va pourvoir à tes besoins. Mariez-vous même si vous n'avez pas. C'est très bien de commencer son mariage quand il y a peu de budget. Parce que si vous apprenez à faire avec peu, vous saurez faire avec beaucoup. Les enfants sont une bénédiction. Ils vont continuer à nous faire grandir. Et au fait, ils sont tellement le reflet de nos imperfections et de nos perfections. Plus difficile, c'est quand tu vois un enfant qui a ton problème. C'est ça. Toi, tu luttes avec ce problème et tu vois qu'il reproduit ça.
Il te rappelle toi.
Exactement. Et ça agresse. Ou s'il y a quelque chose qui t'irrite chez ton conjoint et tu le vois chez tes enfants, c'est un deuxième rappel que tu dois travailler sur toi-même.
Un deuxième rappel.
Donc, tu vois, t'as une confirmation que tu dois vraiment travailler sur toi. Donc, le concept familial, il est extraordinaire. Dieu est intergénérationnel. Oui. Et ta culture d'entreprise, là, c'est un défaut.
Je me dis, je voulais faire un lien.
Ta culture familiale, à tout prix, développe quelque chose, ou je t'encourage, où tu restes connecté. Mm-hmm. La disconnectivité est utilisée aujourd'hui. Il y a tout est fait pour qu'on se disconnecte ensemble. On peut être assis au salon, tout le monde a cet instrument dans la main, et tout le monde regarde ses propres amis qu'ils ont sur les réseaux sociaux, et on perd la connectivité avec les autres êtres humains qui respirent le même oxygène et qui mangent, si possible, la même nourriture dans la même assiette. Donc, la famille, pour moi, qui, comme tu le disais, on est occupé, très occupé, éloigné physiquement, souvent, par des voyages, par des choses comme ça. Mais néanmoins, je vais prendre juste mon exemple à moi. Je travaillais, donc j'étais responsable d'une entreprise internationale. C'est une vie à 4, 5, 6 vies presque que je vivais dans l'entreprise. Et pourtant, j'ai choisi de cuisiner pour mes enfants un repas par jour. Mm-hmm. Donc, généralement, c'était le soir. Et là, j'ai décidé que c'est moi qui cuisinais. Mm-hmm. Et je me suis appliquée, même si j'étais mes HS, hors service, de cuisiner, d'avoir des ingrédients frais et de se mettre à table et de préparer un repas et de se mettre autour de la table et de manger ma nourriture. Parce que je me suis rendu compte qu'au fait, on revient toujours au goût de la famille. Mmh. On a, du reste, les recettes de grand-mère, là. Ça sert à quoi? La nourriture est un amour que l'on déguste. Pour moi, la nourriture, c'est de l'amour que l'on déguste. Alors, soit on se dit que c'est une entreprise qui a cuisiné pour nous, puis on déguste cette entreprise, et c'est la seule marque qu'on laissera. Soit Dieu nous a créés avec la nourriture. Pourquoi il nous a créé un tube digestif? Pourquoi il a créé tant de saveurs? Soit on peut interpréter cette saveur et mettre un goût d'amour dans nos bouches. Et au fait, en cuisinant pour ma famille, on a littéralement construit notre famille autour de la table. Mm-hmm. Mais on l'a construit autour de la table. Vous pouvez interroger mes enfants, vous pouvez parler. On a construit la famille autour de la table avec les goûts de la famille.
Et tu me disais, on discutait que à un moment donné, donc tu cuisinais, mais tes enfants restaient pas trop longtemps à table. Oui. Et là, Josiane a remédié au problème. Et ça, je pense que c'est aussi peut-être un constat que beaucoup de parents font. C'est difficile d'avoir tout le monde autour de la table. Et puis bon, si on les a pour le repas, mais après tout le monde repart vite dans sa chambre. Et puis, en tant que parent, on peut se sentir pas rassasié et pas comblé dans cette relation familiale, se dire c'était trop court, on n'a pas eu le temps de bien échanger. Et du coup, toi, comment t'y as remédié?
Alors, mais oui, c'est vrai. On était dans une configuration, on commençait à avoir des ados, pré-ados. Et au fait, tout le monde restait, on mangeait et tout le monde partait dans les chambres. Et on se retrouvait tout seul. Alors, déjà, parce que tu m'as demandé à quoi ça ressemblait. Moi, j'ai dit à ma famille, dès le départ et à tout le monde, je vous cuisine, je ferai l'effort et vous aurez tout le temps la nourriture dans le frigo, tout le temps. Je m'assurais vraiment de ça. Mais je ne ferai pas la vaisselle. Mais je ne déplace pas une fourchette de la table. Parce que si vous mangez à ma table, vous allez faire la vaisselle de ma table. Je suis désolée. Je ne suis pas la maman qui a tout fait pour ses enfants, mais vraiment pas. Mes enfants ont appris à travailler et ça commençait par vider la vaisselle, faire la vaisselle, mettre la table. J'étais pas ok de devoir tout faire. Je tiens juste à le dire. Je dis aussi que je cuisinais avec mes enfants. Donc petits, j'ai des photos, ils sont dans le lavabo de la cuisine avec moi en train de peler. Aujourd'hui, je cuisine avec mes petits-enfants. Oh. Je leur laisse déguster le sel, le tout, ils bavent dedans, ça m'est égal. Pourvu qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils mélangent tout ça. C'est une transmission très forte, culinaire, très très forte chez moi. Mais à un moment donné, avec les pré-ados, les soirées avec les parents, c'est pas cool, enfin bref. C'est l'adolescence, il faut prendre la distance, etc. Mais je me suis rendu compte que ça devenait vraiment un pattern,
une habitude.
Voilà, ouais. Et que tout le monde, si on partait après la vaisselle, tout le monde était au lit, puis qu'on pouvait plus les appeler pour discuter. Et j'ai dit à Jean-Luc, il faut qu'on remédie à ça. parce qu'on a peu de temps ensemble. Donc, il faut que quand on les a, il faut que ces temps, ils perdurent, ils durent, voire à la limite qu'on se noie dans la présence de chacun.
Des uns des autres.
Des uns des autres. Et que, mais oui, parce que je devais intensifier les moments de présence. Et au fait, je lui dis, on va changer de salon. On avait un salon en cuir, un peu froid. T'étais bien assis, mais t'étais mal. Enfin bref, il faisait pas chaud, c'était pas cosy. Ça devenait la tendance des salons où on peut un peu se vautrer dessus, les gros coussins, les trucs un peu larges. Et la tendance où il y avait aussi des grandes tables. Des grandes tables. Moi, j'ai toujours été assez impressionnée des cultures japonaises qui mangent assis au salon. C'est étonnant, hein? Et j'ai dit à Jean-Luc, on essaye ça. Et on a investi le budget le plus cher qu'on a jamais mis dans un énorme salon. Non, mais ça, et on a presque dû se vendre un rein pour ce salon. Ça, c'est une gag. Mais non, mais on a vraiment mis l'argent dans un énorme salon où nos enfants pouvaient se vautrer dessus, et dans une énorme table qui, au fait, on peut manger à table au salon. Je t'assure, on a amené le salon jour 1. Et j'ai dit, dorénavant, on mangera plus à table. Enfin, j'ai dit, on mange au salon ce soir. Ce soir, on mange au salon.
Wow.
Et c'était là, what? On peut manger au salon. Eh bien, littéralement, dans notre famille, depuis ce jour-là, on n'a plus mangé à la salle à manger. On n'a plus que mangé au salon, vautré. Et ce soir-là, nos enfants, c'était tellement cool. Ils nous ont dit, est-ce qu'on peut aller chercher nos duvets? Est-ce qu'on peut rester là un moment?
Ah, objectif atteint.
Ah oui.
C'était une balle. Et ça a fonctionné. Et c'est resté. Aujourd'hui, quand on invite des gens, même des gens très bien, on dit, si vous êtes des amis, on mange au salon. Si vous voulez être considérés comme des invités, on va à table.
Ouais, des amis.
Et tout le monde se met ce vôtre. Même si c'est, tu manges dans un salon, c'est pas comme à table. Mais on a créé ce lien et ça a fonctionné, ça a marché. Donc, prenez, moi je me souviens d'avoir vécu une expérience quand j'étais étudiante. Je vivais comme étudiante, mais on partageait un salon commun. On était 16 étudiants dans un étage,
si tu veux.
Et on partageait, chacun venait, et on avait tous nos petites bols avec nos petits trucs à manger. Et ça allait pas, j'ai un truc qui a loupé. J'étais là, mais c'est bizarre. Et je me rappelle d'être une fois, était chez mes beaux-parents, et ma belle-mère nous a servi tous dans la même assiette, on avait le même repas. Et ça m'a, j'ai eu ce sentiment de communion, de partage. Et je me suis rendu compte, partager une nourriture, c'est très puissant. Parce qu'au fait, on partage un goût, on partage quelque chose. C'est pas on s'alimente, on expérimente quelque chose ensemble. Et j'ai réalisé que de cuisiner pour les gens, de partager un repas, de transmettre ce que moi j'avais reçu, c'est extraordinaire. Donc voilà, à quoi ça ressemble un petit peu la culture familiale. Transmission, connectivité.
Vraiment. Moi je voulais rajouter, parce que même lorsque nous voyons dans la Bible, Josiane l'a dit tout à l'heure au début, elle a dit ça. Dieu aime les traditions. Vous allez voir dans la Bible, vous allez voir comment Dieu insistait. Écrivez, gravez-les, racontez-les à vos enfants.
Exactement.
Que ça devienne une tradition, une culture. Ça, c'est vraiment Dieu qui aime ça. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire de même.
Exact.
Comment dire ? Choisir une tradition, des choses à faire et à répéter. Faut pas se dire, c'est ennuyant. C'est pas ennuyant. Ça reste dans les enfants, ça reste dans la famille. Et ces enfants, à leur tour, vont transmettre à leurs enfants. Il faut créer des traditions. Il faut créer. Si autour de toi, il n'y a pas de tradition, tu crées. Et puis, ce n'est pas trop tard, même si tu ne l'avais pas avant. Même maintenant, tu peux commencer. Donc, ce n'est pas trop tard. Mais garder cette histoire, même pour que les choses... Dieu faisait que les traditions, les choses restent dans la tête parce qu'il fallait le répéter et le répéter à chaque fois. Et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes même, comment dire, nous sommes, nous pouvons le faire aussi facilement parce que nous avons des choses à répéter, des actes, montrer aux enfants cette culture de donner. Moi, je me souviens qu'on a commencé à apprendre aux enfants à donner. On leur disait, si vous voulez donner même vos vêtements, pas d'habits troués, pas d'habits décolorés. Il faut donner quelque chose qui soit beau, que toi-même tu peux porter. Et je me souviens, j'avais pleuré ce jour-là. Je me souviens, on avait pris des habits. On a donné à notre département de social. Et ces jours-là, je venais, j'avais 5 minutes de retard pour l'église. Je sais pas si Dieu voulait que je sois en retard pour que je voie ça et que les enfants voient ça. Mm-hmm. On arrivait, on cherchait à me trouver là où garer. Et dès que je devais stopper parce qu'il y avait des gens qui... J'ai vu une dame avec 3 filles, avec les robes de mes enfants.
Mm.
Oh. Même les enfants ont vu. Tout le monde a commencé à pleurer dans la voiture. Et je n'avais plus à rappeler aux enfants cette histoire. Les enfants commençaient maintenant eux-mêmes à donner parce qu'ils se disaient, ça sert à quelque chose. D'autres en ont besoin. Et eux-mêmes, ils savent comment trier, pas des habits troués, pas des beaux habits, mais qui ne vont plus. Ils prennent, ils arrangent, ils viennent me donner. Et je pense que ces habitudes, des bonnes habitudes comme ça, on doit les répéter à chaque fois pour enseigner à nos enfants et pour qu'à leur tour, ils enseignent aussi à leurs enfants. C'est très important.
Mm-hmm. Et si tu regardes, c'est magnifique ce que tu dis. Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, on connaît le principe de la dîme.
Mm-hmm.
Généralement, ce qui est demandé dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont répétées, sont plus haut dans le Nouveau Testament. C'est « tu ne tueras pas » dans l'Ancien Testament, « tu ne convoiteras pas » dans l'Ancien Testament. Il y a le principe de la dîme dans l'Ancien Testament. Je sais que c'est pas le sujet, mais je vais faire le point. T'inquiète pas. Alors, c'est quoi le montant dans le Nouveau Testament? Il y a un principe dans l'Ancien Testament générationnel où les familles, le même montant que tu donnais pour la dîme, tu mettais cet argent pour les fêtes. Et pour les fêtes familiales. À quel point, quel budget tu mets et tu investis pour les fêtes de ta propre famille? Aujourd'hui, et à quoi ça ressemblerait? Parce que la génération, elle apprend de ce que toi, tu as vécu. Tu peux leur dire ce que Noé, il a fait. Mais bien sûr, de toute façon, ils l'ont déjà lu. Mais ils n'ont pas vécu Noé.
C'est ça.
C'est quoi ton Noé à toi? C'est quoi l'arche que tu as construit? C'est quoi l'œuvre prophétique que tu as fait où tu as vu la main de Dieu te demander de faire? Et comment tu la racontes, cette histoire, à tes enfants? Et dans quel contexte? Est-ce qu'ils la lisent sur tes réseaux sociaux ou est-ce qu'ils ont accès à toi directement? Et ça, dans notre famille, ça a été un problème. C'est que nos enfants apprenaient des choses au travers des réseaux sociaux. Si on voulait savoir ce qui se passait dans la vie de Jean-Luc, c'était les réseaux sociaux. Et quand il arrivait à table, il était tellement fatigué, il arrivait même plus à nous parler. Ou il était là. Ok, c'était difficile d'être à table. Donc, comment tu fais là, quand on est là? C'est les réseaux sociaux qui racontent ton Noé, ton arche, l'ouverture de la mer Rouge devant toi, etc. Donc, en fait, la culture, Dieu te demande de mettre un budget pour ta famille, mais pour les fêtes de ta famille. Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, ça correspond à une dîme. Alors, t'es OK avec la dîme, j'en suis sûre. C'est quoi le budget que tu mets pour les fêtes avec ta famille? Et profite des fêtes pour rénover ta maison, pour refaire les trucs, pour bien t'habiller, pour créer des choses qui vont marquer. On revient toujours à la table qui nous nourrit et là où on se sent aimé. Là où tes enfants se sont sentis vraiment aimés, ils vont y revenir.
Ouais. Et j'aime aussi, par rapport à ce qui s'est dit là, j'aime ce que vous avez partagé il y a 2 jours, parce que justement, la chose qu'on laisse, je pense, vraiment aux enfants, c'est toutes ces choses qu'on n'a pas forcément dit, mais qu'ils ont vues, exactement comme on est en train de dire là. Et c'est important qu'ils voient ces choses-là, parce que c'est comme une communication non verbale. C'est pas quelque chose qu'on va enseigner forcément, mais c'est important que les enfants voient des choses et c'est important que nous-mêmes on puisse être ces agents qui font voir. Parce que quand on dit qu'on laisse un héritage à nos enfants, moi je pense pas que c'est plus que la maison, c'est plus que de l'argent en fait. C'est vraiment une transmission qui s'est faite, même de valeurs, de foi, des choses vraiment précieuses, des choses profondes. Et c'est important de le réaliser que c'est ça qui doit rester au final. C'est cette foi, c'est cette générosité, tu vois, c'est cet attachement à Dieu. C'est ces choses-là que je veux que ça reste et je dois le montrer. C'est ça qui va me faire travailler moi-même, c'est ça qui va me faire grandir moi-même dans ma propre foi, parce que c'est ça que je veux montrer et c'est ça que je veux transmettre.
Alors nous, on a loupé dans une chose, où on a été challengé plus tard dans notre culture de famille. On l'a dealé pour nous personnellement, et c'est la culture de la réconciliation. Dans une famille, il y a deux choses qui sont importantes. Tu dois développer la connectivité. Ça m'est égal ce que tu fais, je t'aime. Mmh. Ok ? Mon amour pour toi ne va pas dépendre de tes actions. Ça, tu dois le développer. C'est la nature de Dieu. Mmh. Ok ? D'accord ? Mais là, donc rester connecté, c'est une chose que l'on fait. Maintenant, ce qu'on a moins développé, c'est cette culture de savoir pardonner.
Mmh. Oui.
Pardon.
Pas de problème, Liliane.
Et quand je vous parlais des in-laws qui font la loi, on a accueilli un in-law extraordinaire qui vient d'une culture familiale où ils sont la confrontation. Mais c'est une culture de famille. Donc, ils se confrontent ouvertement. Mais quand nous, t'as pas développé cette culture de la confrontation, ça nous a mis mal à l'aise. Et je veux dire, lui, il est
donc,
avec
lui,
beaucoup d'assurance,
pas de problème.
Ah,
il ouvre le sujet.
Ah, il ouvre le sujet.
Et dit, c'est toi. Tu m'adresses à toi.
Exactement. Et te regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais je t'ai préparé un bon. Et au fait, on s'est rendu compte que la culture de reconnecter, la culture de la réconciliation, c'était la deuxième chose que Dieu vous demande de le faire en tant que famille. Et entre frères et sœurs, c'est pas toujours facile, hein. Oh. Alors moi, je sais pas si vous avez déjà vu les photos de ma famille, mais génétiquement, je sais pas, on a eu des gènes, on a fait des très beaux enfants.
Ouais, quand même.
Ils portent une certaine beauté. C'est pas facile de porter cette beauté-là. Mine rien, hein, je vous dis. Mes filles, ça n'a pas été tout évident, on va dire ça comme ça. Ensuite, ils sont plutôt intelligents, plutôt smart, plutôt spirituels. Ensuite, ils sont les enfants d'eux, parce qu'il y a Jean-Luc, ben évidemment, les piquets, là on en parle, les piquets, les pastor kids, les pressions qu'ils ont sur eux, etc. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de jalousie qui viennent. Enfin, tu t'en sors pas dans la vie comme ça. Tu t'en sors pas dans la vie comme ça. Et ce qui fait que quand t'as un frère qui réussit, une sœur qui réussit, etc. Tu sais, il y a plein de choses qui naissent dans la compétitivité. Oui. Tu sais, c'est pas tout rose. Justement, regarde la photo, tu dis, ouf, ça a l'air bien. Ben, je te dis que c'est pas tout rose. Et quelle culture de famille tu dois créer pour que chacun trouve sa place, son espace, sa réconciliation. Tu vois, là, on est génération 2. J'ai deux enfants qui travaillent dans l'entreprise. J'en ai une qui la dirige. Mais du coup, j'en ai une qui doit apprendre à fonctionner avec sa sœur comme boss. Vas-y pour la réunion à table. On a intérêt à avoir développé certaines choses, certaines stabilités. Ben non, c'est pas inné. Ça vient pas comme ça. Et nous, la culture de... Alors, nous, en tant que parents, on a appris à pardonner tout de suite. Et vraiment, on l'a fait. Mais j'ai moins développé le côté des enfants qui seront réconciliés. C'est bon, ben, vous allez vous frotter, la frustration, ça fait du bien, puis... C'est bon, tu vois. Et puis comme ils nous observent pardonner, nous pardonner, s'interpardonner, enfin bref, c'est un truc qui est acquis. Ben, quand on a été confronté à une culture de confrontation, de quelqu'un qui arrive, qui te regarde dans les yeux, puis dit ça m'a offensé.
Ok. Pardon, t'es passé à autre chose. Bah ouais,
Non, on passe pas vite.
Non. Et t'as pas l'habitude de ça. Oui. On s'est rendu compte que là, dans notre culture, on devait travailler. Et autour de la table, tu peux, s'il y a de l'amour, s'il y a un peu de nourriture, s'il y a un peu de bonté. Non, mais s'il y a un peu de bonté. S'il y a un peu de choses qui malaxent, hein, de l'huile, de l'eau, là, dans la chose, ça aide, ça passe. Mais si t'es en clash dans une culture où tu partages même pas un repas ensemble, t'arrives même pas à lever un verre et à faire santé, t'arrives pas à partager quelque chose comme ça, tu penses que tu vas te réconcilier, ton frère et ta sœur qui sont des êtres humains comme tous, même s'ils s'appellent je sais pas quoi, ça reste des êtres humains. Si tu, comme tout le monde, si tu rentres dans leur toilette après eux, ça sent aussi mauvais. D'accord? Donc, comme tout le monde, ils sont comme tout le monde. Oui. Tu penses que tu vas arriver à te réconcilier? Donc, au fait, ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup de choses, et puis c'est une culture. Moi, c'est ça que j'ai envie de laisser aux gens. Développez votre connectivité, vous restez connecté. Non, mais il n'y a aucune excuse. Même si vos enfants, vos parents étaient les pires, la parole de Dieu, elle est claire. honore ton père et ta mère. Il n'est pas dit au conditionnel que les parents ont été OK. Moi, j'ai pas été un parent OK sur tout. Jean-Luc, mon conjoint, n'est pas un parent OK sur tout. On n'est pas des parents parfaits. Et nos parents n'ont pas été parfaits. Mais peu importe, on doit honorer nos pères et nos mères et on doit rester connectés parce que c'est la vision que Dieu est là. Même si tu as été mais dans les pires des circonstances et des scénarios, reste connecté, peu importe. Et après, apprends à pardonner et développe cette culture du pardon. Mmh. Investis dans tes repas de famille, investis dans les fêtes de famille, investis dans des vacances en commun, investis dans des choses et raconte les histoires à ta famille en premier avant qu'elle soit sur les réseaux sociaux.
C'est ça.
Dis ce qui se passe, comment Dieu... Ma fille, elle vient de me challenger, mon petit-fils l'aîné, Karl, quand on lui parle de ce que Dieu a fait dans nos vies, pour lui, il est beaucoup plus touché que quand on lui raconte une histoire de la Bible.
Mm.
Mais pas, c'est trop loin les histoires de la Bible. Il y a ce très beau chant qui dit ce que Dieu a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour le paralytique, s'il l'a fait pour... Et puis on donne... Il peut le faire pour toi. Mais si on le disait à nos enfants, ce que Dieu a fait pour nous, au travers de nous, et si on commençait à parler aux enfants de ce que Dieu veut faire en eux, puis de voir le Saint-Esprit qui grandit en eux, le rappel, puis de les mettre au test, à partir de 3 ans, on peut déjà, de 3 à 7, on peut déjà les challenger spirituellement. Aujourd'hui, on a une famille, si vous nous suivez, hein, sur Présence. Présence, c'est notre conférence un peu vraiment, on est tous ensemble. On se rencontre aux conférences. Des fois, c'est nos seuls moments où on se voit, c'est en conférence. Mmh. Moi, j'ai mes petits-enfants devant moi, ils jouent ensemble, les cousinades, ils se voient, c'est une conférence, c'est une meeting. Ils sont là, c'est les moments que l'on a. Ben, au moins, on prend ce qu'on a, ok? Eh bien, tu vas voir des émissions et vous allez voir, tu vois nos petits-enfants qui prient pour les malades, qui font l'onction d'huile, et tu vois les gens guéris, mais ils viennent avec nous et on leur apprend à guérir les malades et à faire les choses.
Mmh.
C'est vraiment ça la famille. C'est vraiment ça à quoi ça ressemble. Est-ce que ça, quelle est l'émotion que Dieu a hors de ta famille, de l'atmosphère qui s'y dégage. Si tu laisses
l'animosité,
je suis dyslexique et quand je suis fatiguée, ça part en sucette. Donc effectivement, si tu laisses le ressentiment, si tu laisses ta petite aigreur, ta petite frustration personnelle que t'as eue, ben c'est une culture qui va se où tu permets pas à la semence qui sont dans tes enfants de croître. Et puis c'est peut-être cette semence-là même va résonner dans un de leurs challenges que eux ils ont parce qu'ils ont pris tes défauts, tu vois. Ils ont pris peut-être ta susceptibilité, ils ont peut-être pris tes trucs. Et ils vont voir comment toi, tu peux pas mentir à tes enfants. Même si tu parles pas, eux ils entendent ce que tu penses parce qu'ils le ressentent et ils vont grandir en fonction. Alors si nous l'objectif, c'est qu'on soit vraiment le royaume de Dieu sur terre. En fait, moi, je pense que les familles, et ça n'a pas été notre cas, mais je pense que les familles, on est le trésor de Dieu intergénérationnel où il nous confie les principes, ses valeurs, son royaume pour que ce soit transféré de génération en génération. La bénédiction, elle va à 1000. Ça veut dire que j'ai à 1000 générations derrière moi, j'ai des gens qui ont fait des choses qui font que je vis de bénédiction d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que toi, tu vas enterrer cette semence ou tu vas la faire multiplier? Peu importe ce que tu as reçu. Tu as peut-être reçu que 1, mais fais-en 100 avec. Et fais ça. Et il y a une tradition familiale que peut-être je suis OK. Si j'ai une minute pour la partager. J'y vais très vite. Mes enfants, je leur apprends à Noël, parce que tu parlais de la générosité. Je vais au shopping et je paye le caddie de la personne qui est derrière moi. Et j'ai appris à mes enfants que on paye un Noël, un repas à une famille de quelqu'un qui nous connaît pas et pourra jamais nous rendre. Mais on partage que Jésus est vivant au travers de la générosité. Et voilà, ça c'est une tradition que l'on a à Noël.
Je sais pas, il y a personne qui va te suivre l'année prochaine. Merci Josiane. Et je vais aussi terminer en le disant, créer une culture familiale, c'est pas créer un système religieux rigide, mais c'est de créer un cadre qui permet, qui protège la vie et qui protège ses connexions, qui protège la longévité aussi de la famille, particulièrement aujourd'hui, parce qu'on se dit, mais non, on est connecté, on a des groupes, etc. Mais rien ne vaut un vrai repas à table où on peut être ensemble, on peut se toucher, on peut s'entendre, on peut mieux se sentir. Donc, c'est pour ça que la culture familiale, eh bien, c'est important. Ça rappelle aussi des dates importantes dans le calendrier, des non négociables. Alors, ça ne veut pas dire non négociable que on est hyper rigide, hyper strict. C'est que ce moment-là doit arriver, quoi qu'il arrive. Et particulièrement, plus on a d'enfants, plus on a de beaux enfants, plus ils sont loin aussi. Eh bien, c'est de pouvoir réussir à se rassembler. Et ça ne veut pas dire tous les week-ends. Et c'est peut-être aussi pour vous faire le deuil du repas du dimanche midi en famille. Et c'était comme ça que je pensais qu'on allait vivre la famille, la culture familiale. C'est pas possible, c'est pas votre réalité, mais il y a une autre réalité qui est disponible et qui va pouvoir vous rendre heureux, qui va pouvoir aussi vous permettre de passer du temps de qualité et pouvoir transmettre votre foi, transmettre certaines traditions, transmettre certaines histoires qui sont dans la famille, qui ont fait vivre la famille, qui ont créé beaucoup de souvenirs, qui ont créé aussi la foi dans la famille. Et c'est important, c'est pour ça, de maintenir ces rendez-vous, alors que ce soit Noël, ça peut être aussi pour autre chose. Soyez créatifs, soyez inventifs. Personne ne vous limite dans cette culture. Merci Josiane d'avoir été avec nous. Comme je l'ai dit, j'espère que tu reviendras parce que nous avons d'autres sujets complètement différents à aborder avec Josiane. Alors, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un beau week-end. Bye bye.
Bye bye, soyez bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.